Radio Okapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. Mais d'abord, les titres de ce journal. La RDC ne fait plus désormais partie des pays non éligibles au crédit japonais. C'est le ministre japonais de l'économie, commerce et industrie qui l'a dit au VPM de l'économie. Et celui-ci affirme que cette décision ouvre la voie à de nouvelles opportunités de financement et de coopération économique entre le Japon et la RDC. La ministre d'État à l'Éducation nationale, Raissa Malou, a recommandé à l'inspection d'incarner une force d'impulsion pédagogique, un levier d'inclusion et un moteur de transformation citoyenne. C'était lors de la clôture, ce samedi, de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2024-2025. Les déplacés du site de Djaïba vivent dans des conditions extrêmement difficiles, où même l'éducation des enfants est compromise, faute d'un environnement adapté. Leur nombre augmente le jour au jour en raison des persistances des violences perpétrées par des groupes armés. Pour en parler, nous recevons Jean-Vianney Matesso, le chef de groupement de Djaïba. Encore une fois, bonjour à tous. À marge des travaux de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, a été informé par Yuji Muto, ministre japonais de l'économie, commerce et industrie, du fait que la République démocratique du Congo est retirée de la liste des pays non éligibles au crédit japonais. C'était à l'issue des échanges que les deux personnalités ont eu autour de la coopération entre Tokyo et Kinshasa, rapporte ce vendredi le ministère de l'économie. Pour Daniel Mukoko Samba, le retrait de la RDC de la liste des pays non éligibles au crédit japonais ouvre la voie à de nouvelles opportunités de financement et de coopération économique entre le Japon et la RDC, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et du développement économique. Il l'est dit dans cet extrait choisi par Blaise Makassinandès.
Nous avons essentiellement parlé de la nécessité de renforcer les échanges commerciaux et la coopération économique entre nos deux pays. Je pense que l'élément nouveau, c'est le fait que la RDC ne figure plus sur la liste des pays non éligibles au crédit japonais concessionnel. Nous sommes restés sur cette liste pendant très très longtemps, mais les efforts qui ont été faits, d'abord à partir de l'effacement de la dette, mais également de l'amélioration de conditions macroéconomiques dans le pays. Nous avons donné toutes les garanties nécessaires. Nous sommes donc sortis de cette liste, ce qui permet aujourd'hui que la coopération économique ne soit pas limitée à des montants plutôt modestes au titre d'aide au développement, mais que la porte s'ouvre pour que des entreprises japonaises puissent participer à de grands projets comme le projet de Inga ou comme d'autres projets qui sont en cours d'élaboration dans le pays.
Pendant ces temps, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo est arrivé ce samedi à Kinshasa. Il a été accueilli au Palais de la Nation par la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Thérèse Wagner Kaikwamba. D'après la presse de la présidence de la République du Congo, au cours de son séjour de travail de 48 heures, le président Denis Sassou Nguesso du Congo aura un tête-à-tête avec son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux chefs d'État vont probablement évoquer des questions ayant trait à la consolidation des relations qui lient les deux pays dans les différents domaines. Et puis, cette bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Kinshasa. Les transports ferroviaires interurbains reprend bientôt. Cette voiture à voyageurs du chemin de fer arrivée en RDC via le port international de Matadi depuis décembre 2023 seront mises en service sous peu. Jean-Claude Ngoma Moussa, sous-directeur délégué de chemin de fer de Matadi, qui donne l'information, affirme que les techniciens thaïlandais que l'ONATRA attendait sont déjà à Matadi et forment les conducteurs de ces engins dont la mise en service va répondre aux questions des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Des précisions avec Jean-Claude Ngoma Moussa au micro de Nana Plurichmambo.
Ce sont des voitures à voyageurs. Elles sont au nombre de 7 et la précision est que nous n'avons pas besoin de locomotives pour tracter ces voitures. Donc, ce sont des voitures qui peuvent se mouvoir d'elles-mêmes. Ces voitures sont arrivées à Matadi il y a cela 2 ans. Les tractations étaient en cours. Nous attendons les techniciens finalement qui sont arrivés pour la mise en service de ces voitures. Après les contrôles techniques qui sont en train de se faire ici sur place, ces voitures vont monter à Kinshasa. Et pour leur affectation, dans un premier temps, elles vont servir pour les transports interurbains dans la ville de Kinshasa. Vous savez, Kinshasa, c'est une grande mégapole où il y a des sérieux problèmes d'embouteillage. Et l'ONATRA, à travers sa direction des chemins de fer interurbains, est déjà opérationnel sur l'axe gare centrale Kazangulu. Et je vous informe aussi que la voie limitée jusqu'à l'aéroport d'Ndjili est en pleine réhabilitation. Et je pense que un œil sera aussi jeté pour le voyageur grande ligne, c'est-à-dire Kinshasa Matadi. Et l'arrivée de ces voitures va réellement soulager les problèmes de mobilité dans la ville province de Kinshasa et pourquoi pas pour les trafics grande ligne Kinshasa Matadi.
Par ailleurs, en Ituri, circuler entre Bunia et Mahagi sur la route nationale numéro 27 relève du parcours du combattant. Entre bourbier, dégradation avancée, tracasseries administratives et militaires et extorsion des biens, les conducteurs dénoncent une situation devenue insupportable. Suivez ce reportage de Jean-Claude Lokidile qui a parcouru cette route.
Ici, sur la RN27, la route est dégradée et jonchée de bourbiers qui ralentissent la circulation. Les véhicules s'embourbent et les conducteurs s'impatientent.
Regarde le tas de la route. C'est depuis 4 jours que nous sommes sur cette route. On a payé 700 à 800 dollars auprès des services de l'État et nous avons un convoi de 10 camions. Nous nous rendons à Badegaïdo à environ 150 km.
Cette route nationale est pourtant vitale. Elle relie Bunia à Mahagi et sert de corridor économique vers des pays voisins. Mais sa dégradation freine les échanges commerciaux et renchérit le coût du transport. Les plaintes des usagers se multiplient sans réponse durable des autorités.
Nous avons quitté à 10h et nous sommes arrivés ici à 13h. Il est presque 16h. C'est un endroit dangereux à cause de l'insécurité. S'il y a lieu d'arranger cet endroit.
Toutes nos tentatives pour recueillir la réaction de l'entreprise ORC Oriental Roads and Construction en charge de la réhabilitation et la maintenance de cette voie n'ont pas abouti. En attendant, chauffeurs, commerçants et voyageurs espèrent qu'une réhabilitation rapide mettra fin à ce calvaire pour que ce corridor vital rouvre sa place dans les échanges commerciaux dans la région. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capital.
Éducation à présent. La ministre d'État de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a clôturé ce samedi la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2024-2025. Dans son mot, elle a recommandé à l'inspection d'incarner une force d'impulsion pédagogique, un levier d'inclusion et un moteur de transformation citoyenne. Pour ses membres du gouvernement, l'inspection doit également participer à l'amélioration continue des performances de l'école congolaise. Les propos de Raissa Malou recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Concernant la formation, elle doit être rigoureusement orientée vers les résultats. Cela suppose un diagnostic préalable des besoins réels au niveau local. Pour éviter les formations déconnectées des réalités de terrain, les services de contrôle doivent se réveiller pour guider toutes les actions de formation. Je m'engage à accompagner l'inspection générale dans l'installation de 4 nouveaux centres de scanner à Bukavu, à Kisangani, à Gemena, et nous le ferons dès le deuxième trimestre. Il ne s'agit pas d'une option, mais d'une exigence pour garantir une meilleure organisation et réduire le temps de correction des examens. J'insiste sur la nécessité de faire preuve de sérieux à chaque étape des évaluations. C'est une responsabilité partagée, car la crédibilité de nos structures et de notre pays est en jeu. J'instruis également la distribution des bulletins pour l'année scolaire 2024-2025 qu'elle se fasse avec célérité. Ce retard récurrent doit cesser. En matière de gestion administrative, la maîtrise de l'outil informatique et la réduction de l'usage du courrier papier sont obligatoires. Je vous invite à sortir du cloisonnement des filières et à travailler avec synergie dans une dynamique transversale.
Ce forum d'une semaine a été placé sous le thème de la résilience à l'inspection scolaire efficiente, inclusive et citoyenne pour la transformation qualitative de l'école. Éducation encore, l'affaire des 17 établissements de l'enseignement universitaire autorisés à organiser les filières de médecine par le Conseil national de l'Ordre des médecins, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation sort de son silence. Dans un communiqué rendu public ce samedi 22 août, le cabinet de la ministre Marie-Thérèse Sombo indique que le Conseil de l'Ordre national des médecins n'a pas qualité d'effectuer une telle démarche. Il précise que le contrôle des viabilités relève de la compétence du ministère des tutelles, tout en appelant la communauté universitaire et l'opinion publique à la sérénité. Il souligne que le retrait pur et simple du communiqué y afférent, signé par le Conseil national de l'Ordre des médecins, s'impose au regard des conséquences fâcheuses liées à l'illégalité de cette démarche. Processus de Washington et Doha, enjeux, perspectives et rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix en RDC. C'est le thème de la rencontre qui a réuni jeudi plusieurs jeunes et quelques personnalités du pays à Kinshasa. Échange intergénérationnel, c'est le nom donné à cette activité organisée en marge de la Journée internationale de la jeunesse qui intervient le 12 août. Rachel Kalombe et Wami Ngitukulu l'ont couvert pour nous.
Près de 50 jeunes ont pris part à cette rencontre visant à les conscientiser pour la stabilisation de la paix en RDC. À cette occasion, le sénateur Didier Mumengi a résumé pour eux le deux processus Washington et Doha. Il précise qu'il consiste à mettre un arrêt définitif au cycle des guerres qui n'arrêtent pas de provoquer des hémorragies en RDC depuis 1960.
L'urgence, c'est clamper. Et clamper, c'est arrêter l'hémorragie. Et c'est cela, le processus de Washington. Les sutures, c'est le processus de Doha. Le cessez-le-feu a été réclamé par Washington et Doha. On peut maintenant entrer dans un processus thérapeutique le plus intégral pour une paix durable.
Et le voilà, la représentante du ministre de la Jeunesse appelle les jeunes à être artisans de la paix partout. Elle estime qu'en s'investissant dans la paix, la jeunesse peut contribuer à bâtir un avenir différent.
La République démocratique du Congo traverse depuis plusieurs décennies des périodes de turbulences sécuritaires dans l'est de notre territoire. Des milliers de nos compatriotes ont été déplacés. Mais aujourd'hui, le processus de paix engagé par le président de la République vise aujourd'hui à mettre fin à la logique des armes pour ouvrir celle du dialogue.
Cet échange intergénérationnel s'est terminé par un appel à la jeunesse à rejeter la manipulation et la division.
Ce journal se poursuit dans la ville de Beni où la table ronde humanitaire s'est clôturée jeudi autour du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Une centaine de représentants d'organisations humanitaires et d'agences des Nations Unies ont participé à cette rencontre au cours de laquelle les actions humanitaires dans la région ont été évaluées ainsi que les difficultés rencontrées. Un accent particulier a été mis sur la nécessité d'accompagner ces humanitaires opérant dans des zones en conflit, mais aussi sur la lutte contre la désinformation à travers les actions des acteurs de la société civile et certains jeunes. Marc Marofimbo pour les détails.
Présidée par le vice-gouverneur du Nord Kivu, la rencontre a salué les actions des organisations humanitaires dans une région où les interventions se déroulent souvent à zone de conflit. S'y ajoutent les cas de tracasseries de certains services de l'État et la multiplication des taxes qui entravent le bon fonctionnement de leurs activités. Toutefois, les autorités ont assuré les humanitaires de leur accompagnement, une garantie pour poursuivre leur travail, a déclaré le responsable assistant du bureau de coordination des affaires humanitaires dans la région. Il a également invité les jeunes et la société civile à soutenir ses efforts, notamment dans la lutte contre la désinformation dont les organisations humanitaires sont parfois victimes. Franck Adubangu.
Cette assurance de l'autorité nous garantit encore davantage pour apporter l'action humanitaire. C'est aussi un moment pour moi de pouvoir rappeler surtout aux jeunes, mais aussi aux forces vives diverses que les humanitaires attendent leur accompagnement, surtout dans la lutte contre la désinformation. Nous, les humanitaires, nous avons été parfois victimes de l'utilisation de cette technologie qui, pourtant utile, mais des fois nous préjudicie.
Signalons que la journée de l'aide humanitaire a été célébrée cette année sous le thème « Agir pour l'humanité ». Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Parlons santé avant d'aller plus loin. Depuis le mois de juillet de l'année en cours, une recrudescence des cas de choléra est signalée dans la zone de santé rurale de Fizi, au sud Kivu. Selon des sources médicales, au moins 125 cas ont été enregistrés entre le 11 et le 17 août 2025, qui constitue la 33e semaine dans cette zone. Le non-respect des règles d'hygiène est l'une des principales causes de cette situation, indique le médecin chef des zones de santé de Fizi, Roneline Tibonera.
Le responsable des saisons des santé renseigne que sur les 31 aires de santé qui comptent cette entité, 17 ont déjà notifié des cas de choléra depuis le début de l'année. Par ailleurs, il révèle qu'au cours des 5 dernières semaines, 4 aires de santé ont été particulièrement touchées. Il s'agit des Baraka, Mushibake, Mwangaza et Casimir. Les zones de santé des Sebele, Mungano, Achima et Rubana n'en sont pas épargnés. Le docteur Albert Mangaiko indique que selon les chiffres disponibles, au moins 40 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés durant la semaine 34, soit à partir du 18 août dans la zone de santé des Fizi. Face à cette flambée de nouveaux cas de choléra, il tire la sonnette d'alarme car redoutant que la situation ne se dégrade dans les semaines à venir. Pour cela, il appelle la population au strict respect de mesures d'hygiène. Déjà sur le terrain, plusieurs organisations humanitaires déploient leurs efforts pour contenir cette épidémie qui continue à faire des ravages. Parmi ces organisations figurent MSF Hollande et Croix-Rouge RDC.
Actualité internationale.
En Autriche, il y a quelques jours, la charia, la loi islamique, a été appliquée comme base légale pour résoudre un litige économique entre deux hommes musulmans. Mais son utilisation a provoqué des vives critiques au sein de la classe politique.
L'invité.
Le site des déplacés de Djaïba, situé en territoire de Djougou aux abords de la base de la MONUSCO, accueille actuellement plus de 4700 personnes, un nombre qui ne cesse d'augmenter chaque jour en raison des persistances des violences perpétrées par des groupes armés. Ces déplacés vivent dans des conditions extrêmement difficiles où même l'éducation des enfants est compromise faute d'un environnement adapté. Pour en parler, Jean-Claude Lokidile reçoit Jean Vianney Matesso, chef du groupement de Djaïba. Il est notre invité. Suivez leur entretien.
Bienvenue Matesso Thibault, oui. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation générale ici dans votre groupement qui est très secoué par les violences armées? Au stade actuel, quelle est la situation?
Ce dernier temps, vous voyez, le groupement Djaïba ici est vraiment trop touché, trop dérangé aussi. Récemment, nous venons de connaître le camp de tuerie et incendie, pillage.
Ça s'est passé où exactement là?
Ça s'est passé dans les localités du groupement Djaïba situé à une distance de 15 km est. C'est précisément la localité Djaïmbou, localité Donga, localité Loui et localité Ngopeu, où nous avons enregistré 8 morts et puis 10 des 100 éteintes de cases incendies.
Tout cela a quelles conséquences, quel impact négatif sur le vécu quotidien de la population, sur leurs activités? Je sais que dans la région, la plupart sont des paysans qui chaque matin se réveillent pour aller cultiver les champs, mais aussi parmi eux, il y a des éleveurs, parce que je vois ici, il y a des vaches ici qui circulent. Il y a des moutons, il y a des chèvres.
Ouais, mais c'est les journalistes, quand les populations sont tuées vraiment, et leur maison est incendiée, et ça crée une sorte de peur dans la population et commence à fuir les milliers d'habitations. Puis c'est là, panique vraiment les villages, vous voyez. Nos populations ici sont des cultivateurs et des éleveurs. Vous voyez, une fois qu'à la population est tuée, la population fuit les moyens de faire tous les besoins, ça devient un peu difficile. Élever, ça pose des problèmes.
Ils n'ont plus de moyens pour subvenir aux besoins des enfants, notamment vous parlez de la scolarisation des enfants.
Tout à fait, vous voyez, quand on est tué ici, on fuit là-bas, vous voyez, là où la femme était ici à l'école, et la femme fuit là-bas où la femme n'étudiait pas, alors ça perturbe aussi les activités scolaires, et puis parfois la femme reste sans finir l'année. Il y a des enfants parfois qui sortent comme des voleurs, les enfants des rues, de tout cela. Ça, ce sont des grandes conséquences que nous sommes en train d'arriver dans la communauté.
Je viens, ce matin, je me suis réveillé, j'ai trouvé ici à côté de la base de la MONUSCO. Ce matin, je me suis réveillé vers 5h30, 6h. J'ai trouvé beaucoup de femmes ici qui dorment vraiment sous des bâches déjà des abris délabrés. J'ai trouvé des enfants, des femmes enceintes. Il y a un parent qui m'a dit qu'il a 10 enfants, donc tous sont obligés de se confier dans ces abris de fortune. Vous pensez que cela aussi peut jouer négativement sur l'éducation des enfants?
Ça, c'est vraiment ce que notre coutume ne permet pas. Moi, d'ailleurs, quand vous me posez cette question-là, moi aussi, je passe la nuit ici, sous ces bâches-là, dans la pluie. Et puis, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés ici dans de mauvaises conditions. les enfants reçoivent des éducations difficiles là. Vous voyez, le papa est là, la maman est là, la grande sœur, le grand frère, mais la tante. Donc, on se réunit dans un petit endroit là pour passer nuit ensemble. Vous voyez, qu'est-ce que ça peut donner? Ça, c'est vraiment. Ça ne convient pas.
Vous pensez que ça peut être aussi la base de d'augmentation des camps de viol, violences sexuelles, mariages précoces?
Nous avons déjà enregistré beaucoup de camps de violences sexuelles, et puis il y a les mariages précoces, il y a un enfant qui voit que non, donc comme moi, avec telle vie-là, on trouve vraiment, on doit se marier à l'âge qui ne permet pas à un enfant de se marier, vous voyez. Il y a des grossesses indésirables, tout ça, involontaires. Le temps que nous sommes en train de passer ici à Goumandia, vraiment, ça ne peut pas aider donc notre population.
Mais quelle peut être la solution durable par rapport à ça?
Nous demanderions en tant qu'autorité coutumière d'abord de la force des armées de la République démocratique du Congo FRDC de sécuriser la population dans leurs milliers d'habitations pour ne pas vraiment se déplacer à tout moment. Ça pourrait beaucoup nous aider et puis mettre fin à cette guerre ici et puis s'il y a la possibilité, comme déjà promis, le programme de PDDR-S puisse vraiment être accéléré, ça pourrait beaucoup nous aider.
Jean-Vianney Matesso, je vous dis merci.
Nous également, nous vous remercions, monsieur le journaliste.
C'était notre invité, Jean-Vianney Matesso, chef du groupement de Djaïba. Il s'entretenait avec Jean-Claude Loki Dile et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal Parler du Matin, coordonnée et supervisée par Jude Mister Bilandan Kumar et mise en onde par Billy Landry Beto. Ces informations sont disponibles sur toutes nos plateformes digitales et sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programmes sur Radio Capi. Et maintenant, les sports avec Vanessa Kongolo.